Nous sommes là tous, bien sûr, entre autres, pour ouvrir la parole. Et c'est ce que je vous invite à faire dans la première épître de Pierre. Nous poursuivons notre examen de ce livre. La première épître de Pierre, chapitre 5. Ce sera les quatre premiers versets qui vont nous intéresser ce matin. Première épître de Pierre, chapitre 5, les quatre premiers versets. Suivez avec moi, je vais faire la lecture de ces quatre versets. Et puis nous allons prier, demander la bénédiction de Dieu sur ces moments. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te remettons ces quelques instants que nous passons dans ta parole, que tu nous éclaires, que tu nous donnes l'intelligence pour comprendre ce que tu as pour nous. Que ton enseignement, ta vérité puisse toucher notre cœur, que tu continues de nous transformer par ta puissance et que ainsi toute la gloire te revienne parce que cela viendra de toi. En ton nom nous prions. Amen. Amen. Vous allez peut-être me dire, mais Robert, pourquoi ce passage-là, il vaudrait mieux que tu le prêches à toi-même, puisque ça s'adresse aux anciens. Et vous allez dire, je ne suis pas ancien. Hein, moi, simple membre d'église. Et même, Robert, toi, tu es jeune. Tu n'es pas ancien. Tu n'es pas vieux. Alors, bien sûr, ce passage, son application première est pour ce que nous allons appeler pasteur. Pierre, lui, il va employer ce mot ancien. D'ailleurs, d'où nous avons le mot presbytère en français, c'est un mot grec qui nous a donné le mot presbytère, donc c'est le mot ancien ici, et l'application première sera pour des pasteurs. Mais attention, si vous n'êtes pas pasteur aujourd'hui, et c'est le cas pour tout le monde sauf moi, ce passage quand même s'applique à vous. Pourquoi ? Parce que Paul va nous dire « toute écriture est inspirée de Dieu et utile ». Donc ce passage, il est utile pour vous, tout comme, bien sûr, pour moi. Et Pierre, ici, il va donner cet enseignement. Alors c'est assez intéressant, il va parler des exhortations. Parce qu'au verset 1, vous voyez, voici les exhortations. Mais finalement, pour les anciens, il ne fera qu'une seule exhortation. Et elle se trouve au verset 2. On va voir ça dans un instant. Donc apparemment, il avait plusieurs exhortation en tête, mais finalement il ne nous donne que une seule simplement, et ensuite il va qualifier cette exhortation, il va développer un peu, et nous allons essayer de suivre son raisonnement. Et dans ce verset, Pierre va nous expliquer très simplement qu'il est au même niveau que les autres pasteurs. Il dit il y a des pasteurs parmi vous dans les églises auxquelles il écrivait. Alors certains prennent ce passage pour dire toutes les églises doivent avoir plusieurs anciens, plusieurs pasteurs, et rien de mal à ce qu'une église ait ce qu'on appelle parfois un collège d'anciens, qu'il y ait un ensemble de personnes qui partagent le ministère dans ce sens, mais ce verset ne l'exige pas. Et bien sûr, si plusieurs partagent la tâche, c'est toujours plus facile. Mais même s'il n'y a qu'un seul pasteur, un seul ancien, ce n'est pas comme si nous sommes en porte-à-faux avec ce verset. Parce que, souvenons-nous, Pierre, il écrivait à plusieurs églises. Ce n'était pas comme Paul quand il écrivait, voilà, soit à une ville ou à une église, non. Ici, Pierre s'adresse à un ensemble d'églises et même de chrétiens dispersés. Et parmi ces églises, parmi ces chrétiens dispersés, il y avait des anciens. Et Pierre se met au même niveau qu'eux. Et nous voyons qu'avec ce simple verset, la croyance pour laquelle Pierre serait le premier pape, que Pierre serait au-dessus ou plus important que d'autres apôtres, d'autres pasteurs, d'autres évêques même, eh bien, ce verset annule cette croyance, puisque Pierre ne réclame rien au-dessus des autres pasteurs qui étaient parmi ces chrétiens. Et puis, il n'est pas en dessous non plus. Il dit, ben, moi, ancien comme eux, on est pareil dans ce sens. Et Pierre dit, voici les exhortations que moi j'adresse à ces pasteurs. Moi qui est pasteur, est ancien comme eux. Donc il y avait, même s'il y avait la distance entre ces personnes, ben, Pierre s'associe. Et cette idée de lien, nous on va parler de fraternité, ces liens en Jésus-Christ, malgré la distance qui pouvait les séparer, ben, c'est formidable de pouvoir voir cela. Et je loue le Seigneur qu'aujourd'hui encore, ben, parmi les frères et sœurs, ceux qui connaissent réellement Jésus-Christ, même si parfois il y a des distances géographiques, eh ben, nous pouvons avoir des liens, nous pouvons rester en contact. Et Pierre dit, eh ben, je m'adresse à ces personnes qui sont là, je pense à ces personnes, je voudrais leur transmettre quelque chose de particulier. Et là, les chrétiens de ces églises, ces chrétiens un peu dispersés partout, ben, ils ont la possibilité de profiter de cela. Puisque cette lettre était lue, pas juste parmi les pasteurs, comme un peu un secret d'un club voilà, de personnes où il fallait être initié, non. C'était lu ouvertement, c'était tout le monde qui pouvait avoir connaissance de ceci. Et Pierre dit, ben, après avoir donné tout l'enseignement que nous voyons dans les quatre premiers chapitres, ben, il s'adresse particulièrement aux anciens, mais tout chrétien peut tirer profit de ces versets. Alors, Pierre va employer ce mot « ancien », mais en même temps, il va parler de « pasteur ». Alors, vous l'avez vu au verset 3, verset 4, pardon, « lorsque le souverain berger, okay, le berger quitte au-dessus, et là, c'est le mot « pasteur », finalement, qui est là. C'est de là où nous avons notre mot en français « pasteur ». Et qui est le souverain pasteur? Eh bien, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et ailleurs, c'est Paul qui va parler des pasteurs comme des sous-pasteurs, donc des sous-bergers. Non pas qu'ils sont moins, mais vous le savez, sous la direction de Dieu. Mais Jésus est le souverain berger, le souverain pasteur. C'est à lui finalement que nous rendons des comptes, des pasteurs comme tout enfant de Dieu. Et Pierre va dire, je ne suis en rien inférieur, ni supérieur à ces anciens qui sont parmi vous. Non, on est pareil dans la simplicité, mais il dit quand même, je suis témoin des souffrances de Christ. Alors, en quoi Pierre, il était témoin des souffrances de Christ? Ben là, pour Pierre, ce n'était pas théorique. Souvenons-nous, Pierre, il était là lorsque Jésus a été emmené. Pierre était là auprès du feu lorsque Jésus subissait son procès totalement illégal et injuste. Pierre était là lorsque Jésus s'est retourné après que Pierre l'ait renié trois fois. Pierre était là au pied de la croix. Donc Pierre a vu de ses propres yeux ce par quoi Jésus est passé. Nous n'avons pas vu de nos yeux physiques ce par quoi Jésus est passé, mais Pierre, oui. Il dit, moi je ne suis en rien inférieur, j'étais là, je sais de quoi je parle. Et quand je parle des souffrances de Christ, ce n'est pas de façon théorique. Oui, c'est vrai, il a subi des choses dures et tout, ouais. Non, non, il a dit, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu son dos avec tous ses coups. J'ai vu la couronne d'épines sur sa tête. J'étais là. Et puis, il va plus loin. Et il dit participant. Je suis témoin, mais aussi je suis participant de la gloire qui doit être manifestée. Alors, ceci est tellement extraordinaire. Vous le savez, Pierre a renié Jésus-Christ par 3 fois. Pas une seule fois, pas 2 fois, 3 fois quand même. Et on peut se dire, mais comment est-ce que quelqu'un peut être rétabli, restauré complètement après ça? C'est pas possible. Comment peut-on faire confiance? Comment peut-on encore confier quelque responsabilité que ce soit à quelqu'un qui l'ait fait ça? Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a restauré Pierre. Et Pierre dit, je suis déjà participant de cette gloire qui doit être manifestée. Je jouis aujourd'hui de cette participation avec Jésus-Christ. J'attends le plein accomplissement quand Jésus-Christ reviendra, mais je jouis déjà de cela. Et de la même manière, nous aujourd'hui, si nous connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, ben, nous jouissons de cette gloire qui doit être manifestée. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a des circonstances dures, des épreuves. Il y a même de l'opposition. Il peut même avoir, à notre niveau, de la persécution, la moquerie, le rejet, toutes ces choses. Mais tout comme cela est vrai, il est tout aussi vrai que nous jouissons déjà, aujourd'hui, de cette gloire qui doit être manifestée quand Jésus-Christ reviendra. Et cela est extraordinaire. Pierre dit, c'est ce que moi je vis. Et c'est ce que vivent ces pasteurs, et vous, chrétiens auxquels j'écris, et nous, aujourd'hui, chrétiens à Vernon, ben, nous savons les souffrances par lesquelles Jésus est passé, et nous, nous participons déjà à cette gloire qui doit être manifestée. Et cela doit complètement changer notre optique en ce qui concerne cette vie. Cette vie, elle est dure. Oui, on l'a évoqué maintenant depuis quelques semaines. Pierre, ici, il évoque les choses extrêmement dures. La réalité de la souffrance, du mal dans le monde que nous subissons. Le mal, parfois, dans lequel nous nous mettons par notre péché. Mais Dieu est plus grand que cela, et Dieu, pour notre vie, aujourd'hui, le 8 juillet 2018, il nous rend participants de cette gloire déjà à venir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, au verset 2, après s'être un peu introduit, non pas qu'il avait besoin d'introduction, mais juste pour mettre les choses au clair, Pierre arrive à l'exhortation qu'il veut donner. Et au verset 2, Pierre va choisir un mot, bien sûr pas au hasard, il est extrêmement délibéré, conscient de ce qu'il fait quand il choisit ce mot, paisser le troupeau de Dieu. Et quand il dit cela, il est fort probable qu'il pensait à ce que Jésus lui-même lui avait dit. Jésus, après sa résurrection, prend Pierre à part à un moment donné. Et il dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu? L'amour agapé. Est-ce que tu m'aimes de cet amour de Dieu? Pierre lui dit, oui, je t'aime. Mais Pierre n'emploie pas le mot agapé. C'est l'amour philadelphos, donc d'où nous vient cet amour familial. Mais il ne peut pas aller jusqu'à l'amour agapé. Et à cela, Jésus va dire, paix mes brebis. Mais ce n'est pas le mot que nous trouvons ici. Non, c'est la deuxième fois quand Jésus va demander à Pierre, « Mais Pierre, m'aimes-tu ?» Que là, à la réponse de Pierre, Jésus va dire, « Paix mes brebis. » Et finalement, ceci va au-delà de nourrir. Parce que Pierre, effectivement, il y a l'idée de nourrir, prendre soin. Mais finalement, ce mot, il va beaucoup plus loin, puisqu'il implique prendre soin sous tous les aspects, pas simplement donner la nourriture, mais protéger, diriger. Quand il y a la maladie, d'en prendre soin, de guérir, d'apporter ce qu'il faut. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez profond, Et lorsque Pierre choisit d'employer ce mot ici, en s'adressant aux autres anciens, il dit, « Vous, tout comme moi, dit Pierre, votre responsabilité, ce que Dieu attend de nous, c'est finalement de prendre soin dans tous les aspects, de s'occuper dans sa totalité du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Et effectivement, ce verset, il s'adresse à moi. Et il faut que vous ayez connaissance de ce verset, de savoir que voilà ce que Dieu attend de moi. Et quelque part, voici ce que vous devez attendre de moi. Ici, Pierre dit, parce que j'ai vu les souffrances de Christ, parce que je suis déjà participant de sa gloire qui doit être manifestée, j'ai la responsabilité, ainsi que tous les autres anciens, de prendre soin, de s'occuper de ce troupeau de Dieu qui est sous ma garde. Et ce que Pierre explique ici, c'est que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ce troupeau, c'est le troupeau de Dieu. Et dans ce verset, il ne faut pas simplement voir quelque chose pour les anciens, pour les pasteurs. Ouais, pasteur, faites cela, c'est bien, Robert, tu fais cela et c'est bien. Il faut que moi, je m'occupe à mettre en pratique ce verset. Mais ce que je relève dans ce verset, c'est que Pierre va parler du troupeau de Dieu. Ça veut dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous y a conduit. Vous n'êtes pas là par le hasard. C'est Dieu qui vous a placé ici, dans cette église spécifiquement, en ce jour spécifique. Dieu vous a placé ici. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la chance, non, ces choses n'existent pas. C'est Dieu qui vous a placé ici. Et moi, en tant que responsable, je dois me le dire souvent. Dieu ne fait pas d'erreur en vous dirigeant ici dans l'église. Et vous devez vous dire, si je suis ici, c'est parce que Dieu a voulu que j'y sois. Et parce que c'est Dieu qui l'a voulu, je m'y implique comme lui, il veut que je m'y implique. Donc ce troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Et à la fin de verset 3, Pierre va revenir sur cette idée, puisqu'il va parler de ceux qui vous sont échus en partage. Ceux qui vous sont échus en partage. C'est Dieu qui détermine qui sera dans chaque église. Bien sûr, nous avons le libre choix. Bien sûr, il y a la volonté que Dieu nous laisse. Mais Dieu, puisqu'il dirige toutes choses, il nous a conduits ici. Et si nous sommes ensemble, ce n'est pas parce que nous nous trouvons tous sympas et on aime bien être ensemble. Je prie que ce soit le cas, qu'on aime tous bien être ensemble et qu'on avance pour le Seigneur. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a placés ici. Avec nos fautes, avec nos manquements, avec nos personnalités, avec nos caractères, Dieu nous a placés tous, chacun ici. Et Dieu a placé chacun de vous sous ma responsabilité. Et je prie que à ce moment-là, vous vous rendez compte du fardeau que Dieu me donne. J'espère, je prie, que vos prières vont dans ce sens. Que Dieu me soutienne, que Dieu me donne sagesse, intelligence pour accomplir cette lourde tâche. Mais Dieu nous a placés ici. Encore une fois, c'est pas l'erreur. C'est pas le hasard. Non. C'est l'œuvre de Dieu qui nous a réunis ici. Et Pierre dit, pour les responsables, pour les pasteurs, pour les anciens, comme il va les appeler, leur devoir devant Dieu, c'est de paître le troupeau, prendre soin, pas simplement donner la nourriture. C'est une partie de la chose, mais pas simplement. C'est prendre soin dans sa totalité. Et puis de tout le troupeau, pas juste quelques-uns ici et là. Moi, j'ai la responsabilité de m'occuper de tout le monde. Et bien sûr, il y aura des affinités un peu plus avec certains que d'autres. Bien sûr. Si quelqu'un aimait bien des voitures, c'est certes que j'aurais un peu plus d'affinité avec cette personne que quelqu'un qui aime bien la pêche, par exemple. Parce que la pêche, bon, pour moi, c'est à prendre ou à laisser, hein. Mais bon, les voitures, moi, j'aime bien. Donc, quelqu'un qui a, ce même intérêt, bah, effectivement, on sera peut-être un peu plus proche. Mais que Dieu me garde de faire du favoritisme, de délaisser certains, qu'il me relève là où, et me reprend là où peut-être j'en aurais besoin. Mais tout le troupeau est là. Et Pierre avait déjà évoqué dans le chapitre 2, nous ne prendrons pas le temps d'aller voir cela, mais il a déjà parlé des chrétiens en termes de brebis. Et même Jésus, Pierre certainement en se rappelant de ce que Jésus a dit dans Jean 10, parle des brebis. Comme lui, il est le bon berger. Il donne sa vie pour les brebis. Et donc Dieu a mis en place, dans sa sagesse, dans son plan, dans l'Église, des responsables pour garder. Regardez verset 2. Le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Bah, il y a un aspect du travail pastoral qui consiste à garder. Parce qu'il y a des attaques. Satan attaque les églises. Pour être un peu plus personnel, Satan attaque notre église. Satan n'est pas content avec ce que nous faisons ici. Parce que la vérité de la parole est prêchée. Et comme Satan ne veut pas que la vérité soit prêchée, eh ben, il va s'attaquer. Et justement, on avance un peu dans le passage, mais au verset 8, ce n'est pas pour rien que Pierre va évoquer cela. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. » Ces attaques viennent de notre adversaire. De celui qui est contre nous, de Satan, vous le savez. Ces attaques viennent peut-être des inconvertis. Et puis, bien sûr, il y a la mise en garde contre des tensions, des conflits internes. Vous savez, c'est complexe une église. Pourquoi ? Bah, parce que c'est un rassemblement de pécheurs. Pécheurs sauvés par grâce, certes, mais nous sommes quand même des pécheurs. Et à chaque fois que des pécheurs se réunissent, bah, il y a possibilité de conflit. Et nous devons être sur notre garde. Il y a des attaques externes, internes. Et le pasteur, lui, l'ancien, il est là en premier lieu, en partie, pour veiller à cela. Et encore une fois, que ceci vous pousse à plus de prières, pour moi. J'ai l'impression d'être assez égoïste, mais pardonnez-moi cela. C'est la parole qui le dit. Alors, moi, j'y peux pas grand-chose. Dieu place ce troupeau sous la garde des pasteurs. Les pasteurs ne sont pas simplement là pour apporter de bons messages et veiller qu'ils le fassent, cela, mais pas simplement. Ils sont là, effectivement, pour garder, pour veiller, pour nourrir, pour prendre soin dans tous les aspects du troupeau. Et puis, une fois que Pierre dit cela, ben, il va aller un peu plus loin dans les détails. Il va expliquer exactement ce qu'il entend par cette idée de paître le troupeau de Dieu. Puisqu'il dit non par contrainte. Comme si on tordait le bras, comme si on forçait. « Ouais, tu dois faire cela. » Et le pasteur dit « Ouais, mais je veux pas trop. Mais bon, parce que c'est ce qu'on attend de moi, parce qu'on m'a placé ici. » Non par contrainte. Mais volontairement, bien volontiers, c'est l'idée derrière. Et voilà pourquoi les systèmes d'organisation d'église ou des pasteurs sont mis en place, non pas par l'église elle-même, mais par une organisation extérieure, et ça existe, où une structure en dehors de l'église va nommer des pasteurs dans telle ou telle église et va dire ouais, « Toi, tu iras là, et pendant 3 ans, tu seras là, et ensuite on va t'envoyer par-ci, par-là. » Il y a une contrainte, là. Ce n'est pas volontiers. Cela ne vient pas ni du pasteur lui-même, ni de l'Église. on fait subir. Et Pierre dit, non, ça ne doit pas être comme ça. Pas de contrainte. Non, ça doit venir du cœur, volontairement. Et puis, il dit, selon Dieu. Et c'est intéressant que Pierre, il va introduire cette notion, parce que Dieu n'est jamais contraint à rien. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut contraindre Dieu? Impossible, il est tout puissant. On ne peut l'obliger en rien. Et c'est un peu comme cela que nous devons être. Notre service pour Dieu, notamment cette fonction du pastorat, doit être volontiers. Pas forcé, pas malgré la personne. « Oh, j'aimerais tellement faire autre chose, mais bon, parce que je dois être là, je fais ça pendant un certain temps. » Non. Comme Dieu qui, d'un cœur rempli d'amour et d'affection pour ceux qui sont sous sa responsabilité, et pour Dieu ça c'est tout le monde, alors que pour un pasteur c'est un groupe limité, Dieu volontiers agit, fait du bien, encadre, relève, reprend là où c'est nécessaire, et l'ancien, le pasteur, doit être pareil. Ensuite, Pierre va dire quelque chose qui peut-être pour nous semble tellement évident, mais apparemment à l'époque c'était un vrai problème. Non pour un gain sordide, ou on pourrait même traduire malhonnête, quelque chose de sale, de l'argent sale, c'est un peu l'idée ici. Non pas pour ça, mais avec dévouement. Avec dévouement. Pas parce qu'on lui paye. En disant, ah ouais, je vais recevoir mon salaire, je travaille quelques heures par semaine, et puis voilà, l'église prend soin de moi. Non. L'argent ne doit pas être la motivation pour quelque pasteur que ce soit. Sinon, il devrait laisser tomber ce titre de pasteur, parce qu'il est complètement à côté. Cette idée de dévouement, c'est zèle, on va de l'avant, peu importe. Si on lui paye, si on ne lui paye pas, bien sûr c'est mieux qu'on lui paye, mais il fait confiance à Dieu, il ne s'appuie pas en premier sur l'Église, mais il sait que Dieu prendra soin de lui, mais avec dévouement. Encore une fois, envers tous. Il ne pense pas, mon salaire, il faut que je le mérite, il faut que j'en obtiens toujours peut-être un peu plus, ou je vais obtenir mon salaire par toutes ces manières, non. L'argent ne doit pas le motiver, mais c'est ce zèle, ce dévouement, tout d'abord pour Dieu, et à cause de ce dévouement pour Dieu, par la suite, bien sûr, pour tous les frères et sœurs. Et puis, verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Donc, encore une fois, c'est Dieu qui place chacun dans l'Église. Dieu vous a conduit ici. Et parce que Dieu, au final, est au-dessus de tout, loin de moi ou loin de tout autre pasteur biblique, de dominer en disant, c'est mon assemblée. Ce sont les gens qui m'appartiennent. Et je fais ce que je veux, ils n'ont qu'à écouter, à suivre. Et moi, je mets les points sur les i et on va dans mon sens, c'est à ma façon, ou bon, au revoir, voici la porte. Non. Non comme dominant sur eux, puisque toute chose vient de Dieu, mais en étant les modèles du troupeau. C'est tellement formidable là. En même temps, c'est tellement dur, croyez-moi. Étant des modèles. Paul, il va reprendre l'expression quand il va écrire à Timothée, « Sois un modèle pour les croyants. » Un modèle, quelque chose qu'on peut imiter, quelque chose qui reproduit une image. Et cette image, bien sûr, c'est l'image de Dieu. Paul, il va dire aux Philippiens, « Soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Dieu. » Et ici, Pierre dit, « Les pasteurs doivent être des modèles, des personnes que nous pouvons imiter. » Et encore une fois, ceci me parle. Moi, je devrais avoir la conduite, l'attitude, les paroles que vous pouvez imiter. Bien sûr, chacun garde son caractère, sa personnalité, mais dans la conduite devant Dieu, dans la conduite de tous les jours, vous devrez pouvoir regarder vers moi et dire, voici quelqu'un que je voudrais imiter. Sur le plan spirituel, bien sûr, mais dans d'autres domaines également. Et c'est là où je me pose la question, ah, est-ce que ma vie est conforme à la parole? Est-ce que je vous donne un modèle à suivre? Et par la grâce de Dieu, c'est ce que je souhaite faire. En même temps, bah, il est de votre responsabilité de regarder vers ce modèle et de dire, ah, le pasteur est là, le pasteur propose ceci ou cela, le pasteur fait, dit ceci ou cela, bah, qu'est-ce que nous allons faire? Cette idée d'être modèle, quelque chose qui peut être imité, qui reproduit. C'est un élément qui doit être dans l'Église. Et il y a des responsabilités des deux côtés. Être des modèles. Et tout ceci fait partie de ce que Pierre, lui, il va dire, paître le troupeau de Dieu. C'est l'ensemble. C'est dans la façon de penser, c'est dans la façon d'agir, c'est dans la façon de parler en tout pour chacun dans l'Église, parce que cette Église a été établie par Dieu. Le pasteur, le responsable, l'ancien, comme Pierre va le dire, bah, il est mis en place par Dieu et il doit accomplir ces choses. Alors, quelque part, voici ce que vous devez attendre de moi. Voici ce à quoi ma vie doit ressembler. Et il faut qu'il y ait toujours une progression. Cet automne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'étais un peu surpris moi-même en y réfléchissant, ça fera 9 ans depuis que j'étais instauré officiellement en tant que pasteur ici. Le temps passe tellement rapidement. Et lorsque nous regardons l'Église, lorsque je me regarde moi-même, j'aimerais croire que par la grâce de Dieu, je possède un peu plus de maturité qu'il y a 9 ans. J'aimerais croire que notre Église est avancée un peu quand même depuis ces dernières 9 années. Et pourtant, sommes-nous arrivés? Non, loin de là. Y a-t-il des progrès encore à faire? Absolument. Ai-je encore des progrès à faire? Oui. Puis-je grandir sur le plan physique? Probablement pas. Sur le plan spirituel, oui, je crois que oui, par la grâce de Dieu. Pouvez-vous grandir? Absolument, par la grâce de Dieu. Et lorsque je me rends compte que Dieu me donne le privilège de pouvoir vous apporter la parole sur une base régulière, et que j'ai la possibilité de vous voir grandir, croyez-moi, il n'y a rien de plus extraordinaire. Et vous le savez, mais je le répète juste, voilà, pour confirmer peut-être cela et pour que vous soyez au courant. Les pasteurs, ils ne sont pas des surchrétiens, des super-chrétiens, des surhommes. Non. Les pasteurs sont des personnes qui peuvent parfois être découragées, savez? Qui sont parfois tristes pour différentes raisons. Qui se posent des questions comme celle-ci, bah, est-ce que je dois continuer dans le ministère? Les pasteurs sont des personnes qui disent, bah, qu'est-ce que je fais là? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est lorsque bah, nous, pasteurs, nous revenons à ces versets, et je prie que vous aussi, lorsque vous revenez à ces versets, et vous vous rendez compte de ce que Dieu, lui, il a mis en place, que nous nous rendons tous compte de la beauté de la chose que Dieu est en train de construire. Et prendre des êtres tout à fait imparfaits, qui ont encore besoin de faire des progrès, qui sont parfois maladroits, qui ne font pas toujours ce qu'il faut, il prend ces personnes et il s'en servent pour faire avancer les uns et les autres. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, parce que Dieu est un Dieu qui est juste, parce que Dieu est un Dieu d'amour, regardez le verset 4. Puisqu'on combat sur cette terre, Les pasteurs sont là pour garder, pour apporter la parole, pour reprendre, pour encourager, pour fortifier. Les membres sont là avec leurs difficultés, leurs questions, leurs besoins. La vie, elle est dure. La vie avec Christ, certains peuvent dire, est encore plus dure. Mais regardez verset 4. Lorsque le souverain berger paraîtra. Le souverain pasteur, le pasteur qui est au-dessus de tout. Lorsqu'il apparaîtra, regardez la certitude de la chose. Pierre, il avait vu Jésus-Christ remonter au ciel. Il était sur le mont des Oliviers quand Jésus a donné cet ordre, « Vous serez mes témoins ». D'ailleurs, même mot que Pierre va dire, « Je suis témoin des souffrances de Christ ». Jésus a dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem ». Oui, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre était là. Il a vu Jésus monter dans les nuées. Il a entendu ces anges qui ont dit, bah, « Pourquoi vous regardez au ciel ? Ce même Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. » Et Pierre, il est entièrement convaincu de cela. Et c'est ce qui lui permet de dire, « Lorsque le souverain berger paraîtra. » Ce n'est pas peut-être possible si on est assez bon, si on fait exactement ce qu'il faut. Non, non, non. Il paraîtra. Et à ce moment-là, regardez, vous obtiendrez, il parle au pasteur, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Lorsqu'un pasteur accomplit bien son ministère, Dieu ne reste pas indifférent face à cela. Et croyez-moi, ce passage a encouragé plus d'un pasteur. Plus d'un pasteur qui s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine ce que je fais ? Je vois peu de fruits. Je pense à ces missionnaires qui sont partis soit en Inde, en Chine, qui ont travaillé pendant des années. Peu de fruits, pratiquement pas du tout de fruits, pour ne pas dire pas du tout. Et c'est seulement par la suite. Mais ils étaient fidèles. Ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Et Dieu, lui, il est fidèle. Et il récompensera. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Dieu n'est pas injuste, non. Il dit, vous obtiendrez. Tout aussi qu'il est certain que Jésus-Christ reviendra, ben, il apportera des récompenses avec lui. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, il semble que cette couronne qui n'est pas le diadème, il ne faut pas penser à une couronne de roi. Non, ici, c'est la couronne de victoire. C'était quelque chose fabriqué avec des vignes, des feuilles, mais fabriqué à partir d'une plante assez spéciale dont les feuilles tardaient à flétrir, en fait. Donc, c'était quelque chose qui résistait au temps et donc qui durait dans le temps. C'est vraiment une belle image. Mais ici, cette couronne incorruptible, c'est cette couronne de victoire. Et il semble que cette couronne soit réservée au pasteur. Alors, je suis désolé pour vous. Mais voilà, Dieu donnera cela, ainsi que Paul va le dire à ceux qui auront accompli leur ministère avec joie. Et ici, Pierre dit, et Paul confirme, que Dieu voit le travail des pasteurs. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est encourageant. Et Dieu voit votre travail. Dieu ne s'intéresse pas particulièrement aux pasteurs, bien qu'il prend soin d'eux et tout, mais il prend aussi soin des membres de l'Église, de tous ses enfants, sans distinction. Et il réserve des récompenses pour tous ses enfants, vous et moi. À nous, bien sûr, d'être persévérants. À nous d'agir comme il le faut. Et ici, dans ce passage, je suis tellement encouragé parce que je vois le plan de Dieu. Je vois ce que Dieu attend de moi. Je n'ai pas besoin de chercher à droite et à gauche. Ah, Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi et tout. Non, non, c'est dans le passage. Dieu ne veut pas qu'on soit dans le doute, dans l'obscurité, dans le flou. Et puis, avec ce passage, vous avez comme une liste de prières. Il n'est peut-être pas facile de savoir comment prier pour le pasteur. Je l'accorde bien. Mais vous reprenez ce passage et vous vous rendez compte de ce ministère que Dieu a donné à moi, à d'autres pasteurs que vous connaissez. Et à ce moment-là, vous avez une liste établie par Dieu avec laquelle vous pouvez prier. Puisque, encore une fois, je reviens à ce verset 8, Satan est là, il rôde, il tourne autour, il cherche, il veut dévorer. Mais gloire à Dieu, Dieu est tout-puissant, il nous protège. Il ne faut pas avoir peur de Satan, mais il faut veiller, il faut prier. Et ce passage doit nous servir de liste de prières, de dire, Dieu, je prie pour mon pasteur, je prie pour les pasteurs que tu as établis, qu'ils soient comme ce passage, priez pour moi, que je sois conforme à ce passage, que Dieu m'aide à avancer, à grandir là où je dois le faire. Vous le savez, je ne me tarde pas d'être parfait, loin de là, vous le savez. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons avancer. C'est ça qui est formidable. Ce passage rempli d'espérance. Espérance, certitude. Ces choses vont arriver et Dieu est au centre. Alors voici ce qu'il nous reste à faire. Demandez l'aide de Dieu. Dans la prière, aujourd'hui, mais ensuite que cette prière continue tout au long de la semaine. Nous aurons besoin de ce passage demain, tout au long de cette semaine, dans différentes circonstances, que Dieu nous aide à nous en rappeler et surtout mettre cela en pratique en priant pour ceux que Dieu a placés dans des positions de responsabilité et les soutenir comme Dieu l'a prévu. Voilà, demandons l'aide de Dieu dans la prière. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te remercions pour ta parole qui éclaire, qui nous montre ses vérités. Merci d'avoir inspiré Pierre à mettre ces choses par écrit. Merci pour ton plan. Merci pour l'Église que toi tu as établie. Merci pour ce groupe que tu as réuni. Tu fais toutes choses à merveille, tu ne te trompes pas. Il n'y a pas le hasard avec toi. Nous demandons ton aide face aux attaques, face à nos propres manquements, face à notre péché, que tu nous reprends, que tu nous aides à progresser dans cette vie de sainteté avec toi, que tu nous aides à remplir les responsabilités que tu donnes à chacun. Que tu puisses nous trouver à l'œuvre, que nous passions plus de temps dans la prière, plus de temps dans ta parole, que tu sois au centre de toutes choses, Seigneur, et ainsi que tu puisses être exalté, glorifié à travers ton Église, parce que c'est toi qui l'as établi et c'est toi qui la fermera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu parais dans les cieux pour nous prendre auprès de toi. C'est en ton nom que nous prions. Amen.